Session de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Rimont le 19 mai 1996, deuxième conférence.
Oui, à votre première conférence, vous avez laissé entendre qu'on ne peut rencontrer un homme parfait sur Terre. C'est sûr, il n'y a que Jésus. Jésus, je le rencontre dans la foi. C'est pas une expérience humaine. Mais le Christ, en tant qu'homme, n'était-il pas parfait? Oui. Et vous ne l'avez pas rencontré. Moi, je ne rencontre le Christ que dans la foi. Historiquement, Jésus n'est plus de ce monde. La résurrection fait que Jésus n'est plus de ce monde. Donc, je n'ai pas une rencontre philosophique avec Jésus, je regrette. Je n'ai qu'une rencontre chrétienne, et c'est ce que nous voyons, problème éthique. Mais les apôtres ne pouvaient, c'est vrai, rencontrer Jésus humainement, il était parfait, mais ils ne pouvaient pas poser la question, cet homme est parfait. Ils pourraient dire, tout ce que j'ai vu, cet homme est parfait. C'est la foi qui me dit que c'est un homme parfait, parce qu'elle est fils de Dieu. Vous dites que nous mourrons tous. Oui. Mais si Jésus revient dans la gloire avant notre mort, nous ne mourrons pas. Et puis ça, point de vue philosophique. distinguez bien. Cela fait partie de l'éthique chrétienne. Il pose ce problème. Ou est-ce que ce sera une mort particulière? Une mort rapide? De ce monde à l'autre monde, c'est ce que dit Saint Paul. Il y aura une mort, sans doute, mais justement, une mort qui sera immédiatement suivie d'une résurrection. C'est possible qu'il n'y ait pas de mort non plus, mais qu'il y ait le passage de la terre au ciel. Je ne veux pas le savoir. Mais c'est comme Marie. Vous savez pas si Marie a connu la mort physique, biologique. L'Église n'a pas voulu préciser avec le mystère de l'Assomption. Donc, vous pouvez l'affirmer, vous, dans votre opinion personnelle, mais vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, tu es croyant, donc tu dois croire ça, pas du tout. L'Église est si bonne. Du réfectoire, je crois que tout en mangeant, on respecte la lecture qu'on entend. Alors, on dit la distinction du bien et du mal présuppose la foi. Il y avait quelque chose qui est comme ça. le Christ. C'est pas tout à fait juste. Au plan philosophique, c'est très juste de dire ça en tant que chrétien. En tant que chrétien, je suis tout à fait d'accord. Mais la distinction du bien et du mal. Mais au point de vue philosophique, il y a une distinction du bien et du mal à partir de l'amour d'amitié. Voilà la conséquence. Quand vous aimez quelqu'un, vous dites c'est mon ami, vous le considérez comme votre bien. Vous n'avez jamais dire tu es mon ami, mais je te considère comme mal. Tu es mon ennemi. C'est contradictoire. L'amour d'amitié présuppose la distinction du bien et du mal. Et c'est bien là où je le découvre. En premier lieu, comme la responsabilité. C'est pour ça que je crois vraiment que l'amour d'amitié est ce qui nous permet d'avoir un vrai fondement pour l'éthique fondamentalement humaine. Je n'en vois pas d'autre. Je vous ai dit, c'est une question que depuis 30 ans je me pose, parce que je vois que l'éthique est complètement à la volo. Et je ne vois pas d'autre. Et parmi vous, je n'ai pas vu quelqu'un qui va donner un autre fondement. Vous voyez, on donne comme fondement la nature humaine. Mais la nature humaine repose sur l'expérience. Et puis c'est pas la nature humaine comme telle, c'est la nature humaine finalisée. C'est pas la nature humaine prise logiquement. Non, sûrement pas. Alors ça peut être la nature humaine prise dans un jugement de justice, dans un jugement de sagesse, oui. Mais le jugement de sagesse, c'est ce qui est ultime. Donc c'est pas le fondement. C'est l'aspect critique. Ça veut dire que la morale, l'éthique, au plan critique, présuppose la nature humaine. Mais l'expérience, à partir de quoi je construis l'éthique ? Si je dis que la philosophie repose sur l'expérience, hein, nous sommes tous d'accord là-dessus. Ou la philosophie repose sur les idées, ou la philosophie repose sur l'expérience. Je ne crois pas qu'elle. On pourrait dire qu'en troisième lieu, l'inspiration. Une philosophie de l'inspiration, une philosophie d'expérience, une philosophie des idées. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres moyens. Bon, je ne peux pas faire reposer l'éthique sur les idées, comme toute ma philosophie. Je ne peux pas la faire reposer sur l'inspiration. Non. L'inspiration me conduit à une idée. Et donc, elle ne repose que sur l'expérience. Alors, quelle est l'expérience type qui me permet de construire mon éthique ? Posez-vous la question, c'est important quand même ça. Vous voyez ? Quelle est l'expérience type qui me permet de poser l'éthique ? Je vous dis, cherchez. Tant que vous n'avez pas découvert que c'est l'amour d'amitié, je peux vous montrer que ce que vous me dites n'est pas juste. Et le jour où vous découvrez que c'est l'amour d'amitié, je dis « Ah, Eureka, vous avez trouvé !» Il faut le faire soi-même, hein, parce qu'autrement vous dites « Le père Philippe dit ça, mais très bien, ça c'est pas philosophique !» Oui, c'était ce que disait quelqu'un, vieux professeur, je peux bien vous donner l'intelligence, mais pas l'intelligence. Il y a Dieu qui donne l'intelligence. Je peux bien vous indiquer, prenez cette piste-là, vous trouverez. Tandis que si vous prenez une autre piste, non ? Voie sans issue. Les idées, c'est voie sans issue. Les idéologies, ce sont des voies sans issue. Et le démon s'amuse beaucoup. Si je crois en philosophie chrétienne que le démon existe, parce que ça, je pourrais le dire, ça fait partie. J'ai mis tout de suite la mort, mais je pourrais mettre tout de suite après la main. Le point de vue du démon, c'est que la philosophie chrétienne me permet de comprendre que j'ai des complicités avec le mal. Juste là, je ne pourrais pas le dire. Il y a les conséquences du péché originel, et le démon agit sur les conséquences du péché originel. 85 ans, qui diminue beaucoup ma responsabilité. Je suis beaucoup plus miséricordieux en éthique chrétienne que en éthique religieuse. Parce que je sais qu'il y a en moi des complicités par rapport au mal. Et que le démon agit terriblement sur l'imaginaire. C'est le prince de l'imaginaire. Bon, alors, il faut terminer la session, disons. Alors, terminer la session, c'est essayer de comprendre sur trois points donnés qui me semblent le plus important à voir. Qu'apporte l'éthique chrétienne ? Ou quelle est l'interrogation de l'éthique chrétienne ? L'adoration. Vous voyez, l'éthique chrétienne ajoute quelque chose à l'éthique religieuse. Et l'éthique religieuse repose sur l'adoration. Et par l'adoration, sur la vertu de religion. Mais la vertu de religion, puisqu'elle est acquise, avant la vertu de religion, il y a l'acte d'adoration. Dès que vous posez un acte d'adoration conscient et intelligent, vous acquérez la vertu de religion. Alors, que dit l'éthique chrétienne au point de vue de l'adoration ? Que dit l'éthique chrétienne au point de vue de l'amour d'amitié ? Deux fondements. Que dit l'éthique chrétienne au point de vue de la liberté ? Mais c'est très intéressant parce que ça permet de mieux saisir, vous voyez, le point de vue de l'éthique religieuse et de l'éthique humaine fondamentale. Alors regardons ça rapidement. Et si on voulait le faire sérieusement, regardez tous les points. Et après avoir vu, j'ai pris tout de suite le point de vue de la mort, parce que ça c'est fondamental. On pourrait prendre aussi l'éthique chrétienne. C'est l'éthique des béatitudes évangéliques. C'est Jésus qui ne nous donne pas le décalogue, mais il nous donne des béatitudes évangéliques. Quelle différence y a-t-il entre les béatitudes évangéliques et les 10 commandements de Dieu? C'est encore une manière très très élégante de voir la différence entre l'éthique religieuse et l'éthique chrétienne. Parce que dans l'éthique des 10 commandements de Dieu, un seul Dieu tu adoreras. Donc ça c'est vraiment l'éthique religieuse. Vous voyez, et tu restes pour se demander, c'est un point de vue très difficile de voir comment dans l'ancienne alliance, dans la première alliance, est-ce que c'est une éthique proprement religieuse ? Quelle est la place de l'adoration dans cette éthique religieuse ? Quelle est la place de la foi dans cette éthique religieuse ? Oui. Parce que c'est vrai, quand vous lisez l'Ancien Testament, c'est une lecture extrêmement importante à faire avec ce point d'interrogation. Sommes-nous en présence d'une éthique religieuse ou d'une éthique de foi? Est-ce que tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament peut-il être justifié par une éthique religieuse? Ce que je croirais assez volontiers, moi. Oui. C'est intéressant à voir ça. Y a-t-il un point? Alors, le point, c'est que le point de départ de cette éthique repose sur la foi. Dieu dit à Abraham. Et Abraham crut à la parole de Dieu. Donc, le point de départ de l'éthique de l'Ancien Testament repose sur la foi. Donc, une éthique surnaturelle. Mais le contenu de cette éthique apparaît constamment comme une éthique purement religieuse. Et cependant, je crois qu'on ne peut pas dire que l'éthique de l'Ancien Testament est une éthique religieuse. très délicat, le statut, vous voyez, de l'éthique, quand vous lisez l'Ancien Testament, c'est que vous le lire avec intelligence. Vous voyez, quand Dieu dit de faire passer à l'anathème tous les pauvres types qui sont contre le peuple d'Israël, les fils, hein, est-ce qu'au nom d'une éthique religieuse, on peut faire ça? On dira, c'est un fanatisme odieux. Et c'est vrai. Si je regarde l'éthique de l'Ancien Testament d'un point de vue purement religieux, c'est un fanatisme. Passer au sabre, c'est le psaume qui vous dit ça, on chante ça avec gloire. Et Dieu l'a sabré, Dieu l'a sabré. Il reste plus rien, il reste plus. Est-ce que c'est une éthique religieuse? Non, non. Ça ne peut se justifier. Ça ne peut se justifier que dans la foi à Yahvé. Et c'est pour sauver la foi. Pas la religion. Sauver la foi. C'est la seule chose qui est légitime. Pas de contact avec les idolâtres. Pas de contact avec ceux qui croient en plusieurs dieux. Ça, c'est la foi. Mais là, c'est une question très intéressante. Quand vous lisez l'Ancien Testament, il faudrait le lire depuis le début jusqu'à la fin. C'est une belle matière. Et se poser la question constamment, est-ce que nous sommes en présence d'une éthique religieuse ou d'une éthique révélée qui repose sur la foi? Et c'est pas commode. Alors, l'éthique chrétienne par rapport à l'adoration. Qu'apporte l'éthique chrétienne à l'adoration? Alors, voyez, vous vous posez tout de suite la question. La grâce présuppose la nature, mais ne la détruit pas. Or, qu'est-ce qui noue l'éthique religieuse? C'est l'adoration. C'est ce qui donne le sens nouveau du Dieu créateur. Et de comprendre que mon je suis fait que mon corps fait partie de mon être. Si le corps fait partie de votre être et que Dieu a créé votre âme, a créé notre âme, c'est tout notre être qui doit adorer Dieu. Oui, si mon corps était un avoir, j'adorerais uniquement au point de vue intérieur. L'acte d'adoration serait uniquement un acte intérieur, spirituel. Mais puisque mon corps fait partie de mon être, l'adoration implique l'offrande de mon corps à Dieu. Dans une adoration qui implique un holocauste, j'offre mon corps à Dieu. Parce que mon corps fait partie de mon être. Si mon corps ne faisait pas partie de mon être, et que mon corps était uniquement un avoir, l'adoration serait quelque chose de purement intérieur. Alors que l'adoration commence, des adorateurs en esprit et en vérité, commence par le point de vue intérieur, l'acte d'adoration est un acte intérieur, mais réclame que cet acte intérieur s'exprime à travers mon corps. Mon corps est engagé dans l'éthique religieuse. Il fait partie de l'éthique religieuse. D'où le point de vue d'une prière commune. C'est à cause de mon corps qu'il y a une adoration commune. L'adoration est d'abord singulière, puis l'adoration est commune. Ce n'est pas révéler un secret que d'adorer avec quelqu'un qui adore à côté de moi. Qu'est-ce qui justifie l'adoration en commun ? Le corps. C'est pas l'âme, c'est mon corps. Et l'adoration, donc, implique cette offrande de tout moi-même, mon âme et mon corps, à Dieu, pour accomplir le bon plaisir de Dieu. L'adoration, alors, je pars de ce principe, la grâce ne supprime pas la nature. Tout ce qui est naturel est transformé par la grâce, mais demeure spécifiquement le même. Mon intelligence n'est pas transformée spécifiquement par la grâce et par la foi. L'intelligence d'un croyant et l'intelligence d'un non-croyant, spécifiquement, est la même. Pour enseigner les mathématiques à côté de quelqu'un qui est athée, et vous aurez les mêmes mathématiques. Parce que la foi ne transforme pas mon intelligence. Le mécanisme de mon intelligence. Au point de vue, voyez, au point de vue philosophique, si je suis en présence de quelqu'un qui nie l'existence de Dieu, je ne peux pas avoir la même philosophie si, personnellement, je vois que découvrir l'existence de Dieu est naturel. Tandis que les mathématiques, je ne trouve pas l'existence de Dieu par les mathématiques. Il n'y a que Descartes qui voulait faire ça. Puisque Descartes voulait, modo geometrico, montrer que Dieu existe. Il ne faut pas l'oublier. Mais ça, c'est de l'apologétique. Parce que vous ne pouvez pas montrer modo geometrico que Dieu existe. Parce que si vous pouvez montrer modo geometrico, c'est Descartes qui dit modo geometrico. Hein, c'est pour ça que je respecte sa manière de parler latin. Modo geometrico, Descartes prétend qu'il peut prouver l'existence de Dieu. Alors tous ceux qui nient l'existence de Dieu sont des imbéciles. Si on est cartésien. Tandis que si on est thomiste, on ne peut pas dire ça. On peut dire que découvrir l'existence de Dieu par métaphysique est l'acte le plus difficile de mon intelligence, qui présuppose une tas de choses, la découverte de la finalité. Alors, si la grâce ne supprime pas la nature, l'adoration est donc substantiellement la même. C'est très très important pour voir ça, vous voyez. Ça explique le geste du pape à Assise. Tous ceux qui ne l'ont pas compris ont oublié ça. Parce que si la grâce chrétienne ne supprime pas la nature, tous ceux qui ont découvert l'existence de Dieu sans être chrétiens découvrent Dieu créateur, le même Dieu. Et donc ils peuvent être ensemble à adorer le même Dieu. C'est ce que voulait faire le Saint-Père, et ce qu'a voulu faire le Saint-Père. Tous ceux qui adorent un Dieu unique peuvent l'adorer ensemble. C'est pas du syncrétisme. Le syncrétisme serait justement de vouloir adorer un Dieu unique à côté d'un panthéiste. Le panthéiste qui dit que l'univers est Dieu. Alors là, ce serait du syncrétisme. C'est très important, parce qu'il y a à ce moment-là toute une petite querelle. Et bon, c'est important de voir pourquoi il y a cette querelle, d'où vient cette querelle, et comment supprimer cette querelle. Donc, foi. La foi ne modifie pas substantiellement mon acte d'adoration. La vertu de religion est la même. Elle est une vertu acquise. Mais l'exercice de la vertu de religion est transformé par la charité. C'est-à-dire que c'est la charité surnaturelle qui implique la foi et l'espérance, qui vont transformer l'acte d'adoration en l'enveloppant d'un amour surnaturel. L'acte d'adoration est un acte d'amour. Mais cet acte d'amour est un amour naturel que j'ai pour Dieu. L'amour naturel de la partie pour le tout. Je suis totalement dépendant de Dieu et je sais que Dieu m'a créé par pure bonté, par pure gratuité. Et j'aime Dieu dans cette même gratuité d'amour. Bon, ceci est vrai pour l'homme religieux et pour le chrétien. Mais par la charité divine, mon adoration peut aller plus loin. Dieu est esprit, il veut des adorateurs en esprit et en vérité. C'est la parole de Jésus à la Samaritaine. Et là, Jésus parle à une croyante, pas seulement à une âme religieuse, à une croyante. Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. Là, on ajoute justement le dépassement qu'il y a, grâce à la charité, dans l'exercice de l'adoration chez le croyant, chez le chrétien, et chez celui qui n'est pas chrétien, qui n'est qu'une âme religieuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, des adorateurs en esprit et en vérité ? Ça montre que cet acte d'adoration doit aller beaucoup plus loin dans l'ordre de l'amour. Un acte d'adoration à l'état pur, c'est-à-dire uniquement pour le croyant, uniquement pour l'âme religieuse, fait que j'offre à Dieu tout ce que je suis en tant que j'existe par lui et pour lui. Alors cet acte d'adoration fait que je m'offre moi-même à Dieu. Et je sais que Dieu peut recevoir cet acte d'adoration d'une manière aimante. Et par l'amour, je comprends mieux la gratuité absolue de l'acte créateur. Et j'insiste davantage sur la gratuité absolue de l'acte créateur de Dieu. Et par le fait même, l'adoration prend une modalité nouvelle où je respecte et que j'aime cette liberté absolue de Dieu qui me crée. Et qui me crée par pur amour, sans aucun autre motif. Et c'est là où je peux dire que l'acte d'adoration du croyant, il faut des adorateurs en esprit et en vérité. Je vais plus loin dans l'ordre de la vérité. Vous voyez, c'est une question d'intention, d'intensité de l'acte d'adoration. Mais ce n'est pas une question de spécification. L'acte d'adoration reste le même, mais il a une profondeur, une acuité dans son exercice qui va beaucoup plus loin. Et donc, qui permet de mieux saisir le fondement même de l'acte d'adoration. Le fondement même de l'acte d'adoration, c'est que dans tout mon être, je suis dépendant de Dieu. Et que l'acte d'adoration de Dieu est toujours présent. Parce que du côté de Dieu, l'acte d'adoration est éternel. Donc il est maintenant, Dieu actuellement crée mon âme. Et prenant conscience que Dieu actuellement crée mon âme, je le remercie. Je l'aime. L'action de grâce, je le remercie en l'adorant. Je sais que je suis entre ses mains, puisque c'est un acte d'adoration, Dieu pourrait très bien ne pas le poser. Il est libre. Et donc, je reconnais cette liberté absolue de Dieu à mon égard, et je le remercie. L'acte d'adoration prendra donc une modalité spéciale dans l'ordre de l'amour, où je reconnais plus profondément que Dieu m'a créé par pur amour. Sans avoir de son côté, vous voyez, un bien-être nouveau comme créateur. Dieu ne connaît pas une perfection nouvelle parce qu'il est mon créateur. L'acte d'adoration du chrétien est vraiment un acte d'adoration en vérité et en esprit. Il va plus loin dans l'ordre de l'amour, il pénètre plus avant dans la gratuité de Dieu à mon égard, mais tout ça était déjà posé. J'ajoute que pour le chrétien, son acte d'adoration, il le fait par le Christ, mais dans le Christ, et pour le Christ. Alors ça me fait comprendre que mon adoration, grâce à Jésus et par lui, connaît une intensité, une perfection toute nouvelle. C'est Jésus qui adore en moi. C'est Jésus qui adore par moi. Et donc, avec lui. Et donc, c'est vraiment d'adorer en lui. Et il y a là quelque chose de nouveau. Vous voyez dans quel sens on peut creuser ça. Et ça, c'est très important. Et ce que j'ai ajouté tout à l'heure, par le point de vue de la foi, on peut proclamer, je crois, en Dieu invisible, créateur du ciel et de la terre. Et puis alors, par le fait même, un acte communautaire d'adoration personnelle et individuelle. Nous sommes liés ensemble dans l'adoration à Dieu. Parce que nous sommes croyants. Alors que si je n'étais pas croyant et j'étais uniquement un quelqu'un de religieux, il pourrait se faire que dans l'amitié, on se dise que l'acte principal de notre journée, c'est l'adoration. Et on demande à l'ami d'adorer avec son ami. Ce qui est encore très possible. Mais c'est pas communautaire, vous voyez. L'adoration deviendrait communautaire que par l'amitié. Tandis que là, elle est communautaire par elle-même, par la foi. Et dans la foi que j'ai, dans le Créateur. Et donc, c'est toute la naissance de la liturgie. Au sens strict, vous n'avez pas une liturgie. Si vous êtes au niveau religieux, avec quelqu'un que vous aimez beaucoup et qui vous aime, dans un amour d'amitié, on se dit, on va faire une liturgie commune ce soir. Cette liturgie est commune grâce à l'amitié. Et elle n'est pas commune à l'intérieur de la vertu de religion. Alors que si je suis chrétien, c'est à l'intérieur de mon acte de religion. Mais je peux très bien dire qu'on va se réunir pour adorer en commun notre Dieu unique. Le geste du pape. On réunit tous ceux qui croient, qui ont confiance absolue dans un même acte d'adoration, reconnaissant un seul Dieu, créateur de notre âme. Qui est beaucoup plus complexe et très important, c'est de regarder la différence qui existe à propos de la contemplation. La contemplation chrétienne qui achève l'adoration peut être une véritable adoration, une véritable contemplation. Par le point de vue du chrétien, tandis que, au plan purement religieux, la contemplation reste toujours un peu fébrile, c'est-à-dire dans une recherche. Parce que la contemplation purement philosophique de Dieu, elle est très belle. La contemplation religieuse de Dieu, elle est très belle, mais vous dites sa fragilité, puisqu'elle est fondée sur l'acte d'adoration, par où Dieu est omniprésent. Il est omniprésent parce qu'il est celui qui est le créateur de mon âme. Et partout où mon âme atteint la réalité, Dieu est présent. L'éthique religieuse, par l'adoration, tend vers la contemplation. Et je dis bien, elle tend vers la contemplation. Elle n'a pas cette sécurité et cette, j'allais dire, cette solidité de la contemplation chrétienne. Puisque le chrétien, en tant que chrétien, agit toujours au nom du Christ et pour Jésus. Et donc, comme Jésus contemple le Père, je peux, en adhérant à Jésus, contempler le Père. C'est le Père qu'on contemple comme Père. Et on le contemple à travers son Fils bien-aimé. Et je peux à ce moment-là avoir une certaine contemplation religieuse du Père. Mais cette contemplation religieuse ne sera parfaitement elle-même que grâce à Jésus. Et là, je vois comment la grâce chrétienne va développer un regard contemplatif beaucoup plus pénétrant que par elle-même, contemplant un objet. Je contemple un aspect sur lequel la présence de Dieu m'est donnée. C'est beaucoup moins profond. Je vais beaucoup moins loin. Je n'acquiers pas cette liberté aussi forte que que la contemplation chrétienne me donne. Et c'est là où je verrai tout de suite la différence de liberté. La liberté du chrétien par l'adoration dans le Christ du Père. Et la liberté de l'âme religieuse qui essaie de contempler Dieu mais qui le cherche toujours. Où il y a déjà possibilité de contempler. Comprenez, je peux contempler quelqu'un que je ne connais pas parfaitement, mais que je suis certain qu'il existe, et qu'il n'y a pas de distance entre lui et moi. Puisqu'il n'y a pas de distance entre lui et moi, et qu'il agit sur moi, je peux donc le contempler. Je sais que lui me voit, et qu'il m'aime. Je peux donc essayer, moi, de l'aimer. Sachant très bien que je ne le connais pas parfaitement, mais que je sais qu'il est là. Et c'est comme, prenez cette petite analogie, vous pouvez parler à quelqu'un qui est derrière une porte, c'est ce qu'on faisait anciennement aux Carmélites. Elles étaient derrière une clôture, une porte, fermée, on ne les voyait pas, mais on entendait leur voix. Alors le jour où on a ouvert les portes et qu'on entendait la voix de cette Carmélite depuis longtemps, on pensait à la femme de la fontaine. N'est-ce pas ? Si le ramage est semblable au plumage. Mais la relation entre les deux. Mais quand vous n'avez jamais vu une personne, mais que vous avez entendu, alors est-ce que le lien par la voix est plus fort que par la vision ? Ça, c'est très important. Et au point de vue religieux, c'est très important. Parce que, de fait, la contemplation religieuse, il est présent. J'entends pas sa voix, c'est sûr, et je ne vois pas son visage, mais il est présent par l'amour, je le sais. La contemplation chrétienne, j'entends sa voix par l'Esprit Saint. Je sais qu'il est présent et qu'il m'aime. Je ne le vois pas. Et la contemplation de la vision de gloire, je le vois. Vous voyez, c'est très curieux, ces différents degrés de contemplation. Et là, je vois, je peux préciser ce degré de contemplation surnaturel, chrétien, à la différence d'une contemplation purement religieuse. Alors, ensuite, regardons ce que l'amitié humaine est transformée par la grâce chrétienne. Certains diront, puisqu'il y a la grâce chrétienne, la charité, il n'y a plus besoin d'amitié humaine. C'est une idéalisation du point de vue chrétien. C'est pas vrai du tout. La grâce ne supprime pas la nature. Si c'est par l'amitié humaine que je découvre la finalité humaine, la grâce ne supprime pas cela, mais le perfectionne. Alors ça, c'est vrai que l'amitié humaine est transformée par la charité. Mais l'amitié humaine demeure spécifiquement la même si je suis chrétien et pas chrétien, dans son caractère spécifique, mais dans son exercice, c'est très différent. Toujours la même chose, la distinction entre le point de vue spécifique et le point de vue de l'exercice. Distinction qui n'existe plus dans la philosophie phénoménologique. Jamais l'oublier, ça. Dans la phénoménologie, le point de vue de la spécification provient de l'exercice. Et donc la spécification est dépendante de l'exercice. Alors voyez, au point de vue chrétien, qu'est-ce que ça fait quand je transpose ça en théologie ? Puisque l'exercice est différent, la spécification est différente. Alors il y a une coupure entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Donc celui qui prétend que la charité chrétienne supprime toute amitié humaine, c'est de la féminologie. C'est du psychologisme. Alors qu'en réalité, la grâce ne supprimant pas la nature, la charité divine va s'ouvrir à l'amitié. Ou elle transforme l'amitié, mais elle ne la supprime pas. L'amour qu'on a pour ses parents, l'amour qu'on a pour ses frères et sœurs n'est pas supprimé par la charité. Au contraire. Et à partir de l'exercice des vertus théologales, je peux très bien acquérir de nouvelles amitiés qui naissent à l'intérieur même de mes relations chrétiennes. Alors, que va changer la charité divine à l'égard de l'amitié ? Elle va me permettre de voir, de considérer que je dois aimer mon frère comme Dieu l'aime, comme Jésus l'aime. Et donc, je comprends que mon amour pour lui, quand il est trop humain, l'empêche de croître. Trop humain, c'est-à-dire trop dépendant du mode humain. Que la charité chrétienne devrait me libérer de ce mode humain et faire que l'amour est au-delà de tous les conditionnements de lieu et de temps. Et donc, si l'amour est au-delà, que si je ne peux plus voir mon ami, ça n'a aucune importance, comprenez bien, métaphysiquement parlant, et divinement parlant, puisque l'amour d'amitié dépasse tous les conditionnements, puisque l'amour d'amitié me permet de vivre de ma finalité, au-delà des conditionnements. Et l'agapé, la charité, me permet de mieux comprendre comment tous ces conditionnements sont dépassés dans une charité divine. Et par le fait même que tout amour d'amitié étant dépassé par la charité divine, connaît un nouvel épanouissement divin dans une pauvreté nouvelle. Alors je crois que c'est cela qui transforme le plus l'exercice de la charité divine, de l'exercice de l'amour humain. Spécifiquement, c'est toujours la personne de l'autre que j'aime. Mais au point de vue chrétien, cette personne de mon ami est illuminée par l'amour que j'ai de lui, par l'amour que le Christ a pour lui. Et je l'aime comme le Christ l'aime. Et donc je vais beaucoup plus loin que mon amour purement humain. Je l'aime avec tout le poids d'amour que le Christ a pour lui. Et c'est ça le propre de la charité divine. Et donc qui permet à l'exercice de l'amitié humaine de ne pas avoir de limites dans l'intensité, mais exige en même temps une grande pauvreté. Et une pauvreté beaucoup plus profonde. Parce que je sais que quand j'aime quelqu'un et que je peux exercer cet amour d'amitié, naturellement, disons pas instinctivement, naturellement, j'ai un certain droit sur mon ami. Il y a le jus amicitiae, le droit de l'ami. Je suis ton ami et je le suis depuis 20 ans. J'ai donc un peu des droits sur toi. Des jours de mauvaise humeur. Voilà ce qui ressort. Et c'est faux, puisque l'amour d'amitié est au-dessus du conditionnement, les 20 ans. C'est le conditionnement. Donc vous faites appel au conditionnement qui est dépassé par l'amour d'amitié. Ça prouve que vous ne l'avez pas dépassé. Et donc votre amour humain est resté encore trop humain, c'est-à-dire trop dépendant du conditionnement. Il est toujours un peu dépendant, mais grâce à l'amour surnaturel, il peut être très libéré du conditionnement. Et donc, au point de vue divin, ne pas voir son ami, ou le voir beaucoup moins, c'est de l'ordre du conditionnement. C'est très important au point de vue humain, mais au point de vue profond de l'amour d'amitié comme tel, et de l'amour d'amitié qui s'exerce divinement, ça n'a pas d'importance. Et là, vous voyez, c'est cette note de pauvreté qu'on retrouve du reste, vous voyez, analogiquement, on le retrouve dans l'art chrétien. L'art chrétien, en tant que chrétien, est simplifié. Il est simplifié parce qu'il est chrétien. Alors, un art chrétien qui implique des surcharges et des surcharges, ça prouve qu'il n'est plus assez chrétien. Et que c'est le romantisme imaginatif qui vient ajouter. Il y a un phénomène analogue avec le point de vue de l'amour d'amitié. C'est très curieux, ça. À cause de l'amour d'amitié, mon amitié s'exerce dans une grande pauvreté. Je remets à Dieu mon ami. Quant à l'exercice de l'amitié, j'accepte de ne plus le voir pendant un certain temps. Je sais que cet espace de pauvreté, s'il est vécu vraiment dans un cœur aimant, ne fera qu'une seule chose. Je sais que cet amour d'amitié exercé dans une pauvreté permettra à l'amour, dans ce qu'il a de plus pur, de s'intensifier. Il sera moins lourd, moins pesant. Il aura un caractère plus spirituel, plus divin. Mais c'est vraiment la pauvreté qui caractérise l'art chrétien et qui caractérise une amitié chrétienne. Mais je pourrais, vous voyez, prendre toutes les béatitudes et voir que qu'est-ce qui caractérise l'amour d'amitié au plan chrétien ? C'est la pauvreté, la douceur, la miséricorde, toutes les béatitudes. Mais la pauvreté, c'est ce qui est le plus caractéristique. C'est là où on sent davantage. Et là, c'est là où on doit lutter plus. Mais je dirais la même chose pour la douceur, la pureté du cœur, l'amitié. Toutes les béatitudes caractérisent l'amitié divine. Et donc, me montre comment l'amitié humaine est transformée du dedans par les béatitudes. Je vois que c'est l'heure. C'est très bien de terminer par là, parce que comme c'est infini, on est bien obligé de respecter l'heure. salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.
Merci de votre écoute. Continuez de prier pour ce qui se fait ici. La recherche philosophique et théologique, je crois que c'est vrai. Cette recherche de la vérité qu'on doit tous faire ensemble et qui n'est pas commune dans le monde.